Premier sermon. Prédication pour se préparer à la Sainte Cène, avec une méditation pour s'y préparer. 1 Corinthiens 11. Que chacun s'éprouve soi-même et ainsi mange de ce pain et boive de cette coupe. Quand il est question de comparaître devant Dieu pour écouter sa parole, et participer à la table du Seigneur, 1000 considérations se rassemblent dans les cœurs de ceux qui craignent Dieu, pour les toucher d'une frayeur religieuse et les tenir en respect et révérence. Il faut se souvenir que c'est devant Dieu que nous comparaissons, qui est un feu dévorant, qui sonde les cœurs et pèse les actions en justice, et à qui rien n'est caché. Il ne laissera pas impuni l'ingratitude de ceux qui méprisent sa grâce, qui font peu de cas des témoignages de son amour et de l'invitation gracieuse par laquelle il nous appelle à lui. Il faut considérer que nous sommes des créatures infirmes, des vases fragiles, des pécheurs, des malades spirituels qui cherchent la guérison, coupable de lèse-majesté divine qui demande la grâce du souverain. Il faut aussi considérer le lieu où nous sommes, à savoir la maison de Dieu où il se communique à nous et nous informe de sa volonté. Un lieu que les anges environnent, que le monde est, dont le diable font le tour, comme loup autour de la bergerie du Seigneur. Afin que, réveillés de notre endormissement comme Jacob, nous disions que ce lieu est épouvantable. Ce n'est ici que la maison de Dieu, et c'est ici la porte du ciel. Surtout, il faut considérer la nature de la Sainte Cène, où vous sont administrés les gages de votre rédemption, et où Dieu nous reçoit à sa table pour être de ses enfants. Où vous est proposé cet agneau de Dieu qu'il faut manger avec herbe amère, c'est-à-dire avec une douleur amère, pour avoir offensé Dieu. Que si vous aviez les yeux de l'âme aussi ouverts que ceux du corps, vous verriez les anges attentifs et se réjouissant lorsque les bénéfices sacrés nous sont administrés. Car s'il y a joie au ciel pour un pécheur converti, combien plus pour une multitude de pécheurs se repentant et accourant avec ardeur pour recevoir la grâce et être réconciliés avec Dieu. Le moyen d'en approcher dignement est celui que nous donne l'apôtre en ce passage, où il veut que chacun s'éprouve soi-même et examine sa conscience. Ce qui est un enseignement utile en tout temps, mais principalement lorsque nous nous disposons à participer au corps et au sang du Seigneur. Une des principales occupations du fidèle est de sonder et examiner sa conscience, reconnaître ses défauts, se rendre compte à soi-même, afin de penser comment il pourra rendre compte à Dieu, reconnaître quel progrès il fait en la foi, combien de bonnes œuvres il accumule, si l'amour du monde et des richesses croît ou diminue en lui, comment il est préparé à mourir, si aujourd'hui Dieu venait à trancher le fil de sa vie et lui redemander son âme. Cet examen de soi-même est plein de difficultés. Une des choses les plus mal aisées est de se bien connaître soi-même, car chacun se flatte au lieu de se réprimander, et prend les réprimandes comme des injures. Et tout ainsi que nous voyons bien les yeux et les visages de nos prochains, mais ne voyons pas les nôtres, ainsi nous considérons attentivement les actions d'autrui, reconnaissons aisément ses défauts, mais sommes aveuglés pour les nôtres. Plusieurs qui ont promené leur esprit par toute la nature et dans beaucoup d'histoires étranges n'entendent rien en leurs propres affaires. Cette difficulté est accrue par une inclination perverse qui est en la plupart des hommes à éplucher les actions d'autrui et aiguiser sa langue sur la vie de son prochain. Le médisant et envieux seraient bien affligés que ses prochains fussent gens de bien et que leur vie fût irréprochable. Si Dieu a mis en nos prochains quelques grâces et quelques vertus, cela se passe sous silence, comme si la mémoire nous faisait mal au cœur. Mais on amplifie les vices d'autrui et de verrues en fait des chancres et des abcès. On y fait des commentaires et même on tord et corrompt les meilleures actions par une sinistre interprétation. Tu vois une paille dans l'œil de ton prochain et ne vois pas une poutre en ton œil. Ainsi les hommes ressemblent aux sangsues qui ne tirent que le mauvais sang et à certains oiseaux qui ne vivent que de vers et de chenilles. Il fallait plutôt prendre garde aux vertus d'autrui, afin de les imiter et rendre grâce à Dieu de ce qu'il a mis devant nos yeux de bons exemples pour nous y conformer, et dans les vices et péchés d'autrui considérer l'image de nous-mêmes et reconnaître que si Dieu ne nous retenait et ne nous assistait, nous en ferions autant et chose encore pire. Mais l'œil envieux ne peut supporter la clarté de la vertu d'autrui. Il étale multitude de blâmes au lieu que la charité couvre multitude de péchés. Car nous pensons que les louanges d'autrui ravalent les nôtres et que les vices d'autrui servent à nous justifier et que nous sommes assez bons pour qu'il s'en trouve quelqu'un plus vicieux que nous. De là advient que nous devenons négligents à bonnes œuvres. Car l'ouvrier qui a toujours l'œil figé sur l'ouvrage de son compagnon n'avancera jamais sa besogne. Nous en avons vu qu'ils s'abstiennent exprès de la table du Seigneur parce que les personnes qu'ils haïssent y participent. Ils disent ne vouloir avoir communion avec les méchants et avec des femmes impudiques. Par la même raison, ils devraient n'écouter non plus la parole de Dieu parce que plusieurs profanes l'écoutent. Ils devraient se crever à eux-mêmes les yeux parce que plusieurs méchants jouissent de la clarté du soleil. Tel genre ressemble à ceux qui, au chapitre 65 d'Ésaïe, disent à leur prochain « Tiens, toi là, n'approche pas de moi, car je suis saint comparé à toi. » Mais ils tiennent ce langage pour avoir occasion de diffamer leur prochain, et bien souvent ils ne sont pas meilleurs, et quelquefois pires. Jésus-Christ n'a pas fait ainsi, car il n'a pas empêché les apôtres de communier avec Judas, bien qu'ils connaissent sa méchanceté. Que si à cause des méchants, les bons s'abstiennent de la Sainte Cène, que fera-ce de la table du Seigneur, sinon un auge à pourceaux, et de l'Église qu'une caverne de brigands? On peut bien communiquer avec un méchant sans communiquer à sa méchanceté, et nous n'avons pas à répondre à Dieu des péchés d'autrui. Car comme dit saint Paul aux Galates, chapitre 6, chacun portera son propre fardeau. C'est pour cette raison que notre apôtre ne dit pas que chacun éprouve son prochain, mais il dit que chacun s'éprouve soi-même. Or, cette épreuve de soi-même consiste en deux choses, à savoir à se sonder soi-même si on a une vraie et sérieuse repentance, et à s'éprouver soi-même si on a la foi. Car en ces deux choses, saint Paul, acte 20, fait consister toute sa piété, disant qu'il a annoncé tant aux Juifs qu'aux gentils la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. La repentance regarde aux choses que Dieu attend de nous, mais la foi se propose les choses que nous attendons de Dieu. L'une regarde les commandements de Dieu, l'autre ses promesses. L'une règle nos actions, l'autre nos croyances. La repentance commence par la connaissance de ses péchés, lesquels, si on veut bien les connaître, il ne faut pas comparer sa vie avec la vie d'autrui, mais il faut l'examiner à la loi de Dieu et surtout à ses règles tant hautes et difficiles. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, qui sont règles non seulement par-dessus nos forces, mais aussi par-dessus notre imagination. Car nous faisons tous profession d'aimer Dieu en général, mais nous considérons son amour moins important que l'amour de nos plaisirs et de notre argent, et notre cœur y est beaucoup plus attaché. Tellement qu'il se trouve que nous aimons Dieu en gros et en général, mais le méprisons en détail et en chaque action particulière, et que ce que nous appelons amour de Dieu est à deux doigts de la haine. Car la loi de Dieu, en disant que Dieu fait miséricorde à ceux qu'il aime et garde ses commandements, fait consister l'amour de Dieu en obéissance à sa volonté. Donc s'ensuit que lui désobéir et mépriser sa parole est le haïr, bien qu'on fasse profession de l'aimer. Certainement, si nous aimons Dieu autant qu'un profane aime ses voluptés ou un avare son argent, Dieu serait fort bien servi. De même, pour connaître nos péchés, sans examiner non seulement nos actions extérieures, mais aussi nos pensées et nos désirs et affections intérieures. Car Dieu veut que notre cœur soit un cabinet de saintes pensées. Il faut aussi examiner ses paroles, car Jésus-Christ nous déclare que nous rendrons compte même d'une parole oisive. Aussi, en cet examen, il ne faut pas seulement regarder au mal que nous n'avons pas fait, mais il faut aussi regarder au bien que nous avons laissé. C'est quelque chose de pouvoir dire sans mentir « Je n'ai ployé le genou devant les images, je n'ai invoqué aucun autre que Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Mais le principal est de savoir si tu as invoqué Dieu avec ardeur et confiance, si tu as été zélé pour sa cause, si tu t'es entièrement adonné à son service. C'est quelque chose de pouvoir dire « Je n'ai pas blasphémé le nom de Dieu. » Mais le principal est de savoir si tu as glorifié Dieu et pris plaisir à magnifier son saint nom. C'est quelque chose de pouvoir dire sans mentir « Je n'ai pas dérobé ni ravi le bien d'autrui, ni trompé mon prochain. Je ne vois rien chez moi qui ne soit justement acquis. » Mais le principal est de savoir si tu as été libéral envers le pauvre et plein de compassion envers l'affligé. Je dis plus. C'est ce qui se trouvera si nous voulons nous examiner comme il faut, que nous mentons quand nous disons « Je ne suis pas idolâtre, je n'ai pas tué ni dérobé. » Tu n'as pas vraiment rendu un service religieux aux images, mais tu as idolâtré ton corps en le vêtant et ornant curieusement. Par ta gourmandise et ivrognerie, tu as fait de ton ventre ton Dieu. Tu as transporté à ton argent l'amour et la confiance que tu devais à Dieu. Tu as mis cette idole d'argent sur l'autel de ton cœur, à laquelle toutes tes affections ont fait la révérence. Dont aussi l'apôtre aux Colossiens, chapitre 3, appelle l'avarice idolâtrie. Tu n'as pas vraiment tué quelqu'un à coups d'épée, mais tu as laissé mourir le pauvre de faim. Car on éteint une lampe non seulement en la soufflant, mais aussi en n'y versant pas d'huile. Tu t'avais donné de l'huile pour verser en cette lampe, mais tu ne l'as pas fait. Tu as eu des haines mortelles. Or saint Jean, en sa première épître, dit que celui qui hait son frère est meurtrier. Tu dis, je n'ai pas dérobé le bien de mon prochain. Mais tu as dérobé à Dieu sa louange et lui as soustrait le service qui lui est dû. En ne donnant pas aux pauvres, tu as retenu ce qui lui appartient, ce qui est une espèce de larcin. Car nous ne sommes pas propriétaires des biens de ce monde, mais seulement dispensateurs. Dont aussi il nous sera dit au dernier jour, rends compte de ton administration. Tu dis n'avoir commis ni paillardise ni adultère, mais tu as eu en ton cœur un brasier de convoitise impudique. Or, Jésus-Christ, au 5e chapitre de saint Matthieu, déclare que celui qui regarde la femme de son prochain d'un œil de convoitise a commis adultère. Il faut aussi, en l'examen de ses fautes, faire tout le contraire de ce que nous faisons ordinairement, qui est de donner à nos vices des noms spécieux et les couvrir du manteau de la vertu. Car l'avare s'estime bon ménager, et l'homme vindicatif veut être estimé homme de grand courage. Comme si la force du courage consistait à ne pouvoir rien supporter. L'homme voluptueux et profane veut être estimé jovial et d'une humeur agréable. Et la finesse est prise pour prudence, dont il faut s'ébahir si les vices ont la vogue, puisqu'ils passent pour vertu et empruntent les noms de la vertu. Aussi, en cet examen de soi-même, il faut savoir que non seulement nous serons coupables des péchés que nous commettons de nous-mêmes, mais aussi de ceux que nous approuvons en autrui. Si quelqu'un profère des vilaines paroles ou blasphématoires, celui qui les écoute et en rit, au lieu de les reprendre et s'en fâcher, participe à ce péché. Et celui qui, ayant moyen ou occasion de détourner un homme des vices par bon conseil et sainte exhortation, le laisse courir à l'abandon de ses convoitises, se rend coupable de tous les péchés que cet homme commet par faute d'avertissement. Il ne suffit pas d'examiner nos actions, mais il faut aussi demander à nous-mêmes compte du temps, des heures, des jours et des années, et nous interroger nous-mêmes combien en tant de temps nous avons avancé en la foi et en bonnes œuvres, et profité en la connaissance et en la crainte de Dieu, et à quoi nos heures ont été employées. Car si seulement vous considérez combien en un jour vous avez donné de temps au service de Dieu, vous trouverez que des 24 heures, le dormir en a emporté le tiers. Qu'une autre partie s'en est allée à s'habiller, une autre à manger et à boire. Que les procès, le travail d'un métier ou d'une vocation civile ont emporté la plupart de ce qui nous reste de temps. Le reste s'en est allé en propos inutiles, en promenades oisives, à s'enquérir de nouvelles, en jeux et récréations. Sans parler des actions méchantes, des chicaneries, fraudes et médisances, des débauches et excès qui irritent Dieu, scandalisent le prochain, corrompent le corps et l'esprit et occupent le temps qui est dû à bonnes œuvres. Tellement que ce qui reste temps pour la prière et lecture sacrée et pour des actions saintes et charitables revient à quasi rien. Et que Dieu, auquel toute notre vie est due, est le plus mal loti. Le comble du mal est que, dans les autres actions, nous y sommes tout entiers, et quand nous vaquons à nos affaires domestiques ou prenons nos plaisirs, nous ne voulons être divertis. Mais quand nous prions Dieu ou écoutons sa parole, nos esprits s'égarent en d'autres pensées, et nous ne sommes là qu'à demi, et ne sommes guère affligés d'être interrompus, et sommes bien contents d'en avoir terminé. Qui est le prince qui souffrit qu'on lui parle avec autant de négligence et d'égarement que nous parlons à Dieu? Tout bien compté, il se trouve que Dieu n'a pas seulement la moindre partie de notre vie, mais aussi la pire, et celle à laquelle nous apportons le moins d'attention. Même nous trouverons que la plupart de nos bonnes actions procèdent de mauvais motifs, et que les vertus languissent si elles ne sont réveillées par quelques vices ou considérations humaines. Elles ressemblent aux Israélites qui passaient vers les Philistins pour aiguiser leurs épées. L'un s'abstient de débauche, mais c'est de peur de dépenser. L'autre étudie pour devenir savant, ou s'adonne aux actions généreuses, mais c'est par ambition et par émulation contre ses compagnons. L'un ayant reçu une injure endure patiemment, mais c'est ou par timidité, ou de peur d'encourir la punition portée par les lois. L'autre défend la cause de Dieu avec ardeur, mais il y mêle de ses intérêts. Plusieurs femmes sont chastes de peur de la mauvaise réputation, pour faute d'occasion, et non par la crainte de Dieu. On donne l'aumône, mais pour être vu. Et l'amour que nous portons à Dieu est motivé par l'amour que nous nous portons à nous-mêmes et par le profit que nous en espérons. Tout cet examen de nous-mêmes dont nous vous avons parlé n'est que superficiel et ne va pas jusqu'au fond. Car apprendre le meilleur d'entre nous, s'il veut s'interroger soi-même, sans se flatter, et se demander à soi-même s'il ne pense pas plus souvent à son argent qu'au service de Dieu, s'il n'entend pas plus volontiers ses propres louanges que le louange de Dieu, s'il n'est pas piqué plus au vif quand on lui dit injure que quand il entend blasphémer le nom de Dieu, si l'affliction de l'Église le touche plus au vif que ses pertes et afflictions domestiques, si le règne de Satan, si puissamment établi au monde, le consume de tristesse, à l'exemple de saint Paul, dont l'esprit était contrarié, voyant la ville d'Athènes adonnée à l'idolâtrie. S'il a toujours devant ses yeux l'honneur de sa vocation pour cheminer conformément à celle-ci, s'il se repose en la providence de Dieu et se fie en ses promesses et se glorifie de son alliance plus que de tous ses avantages mondains et se réjouit en son amour. Il trouvera qu'il est fort éloigné de la pureté, intégrité et du zèle que Dieu requiert en ceux qu'il a instruits en sa parole et qu'il a honorés du titre de ses enfants. Là, combien sommes-nous éloignés des règles de charité que Dieu nous propose en sa parole? Qui est celui d'entre nous qui invite à sa table plutôt les pauvres que les riches, selon le conseil du Seigneur? Qui, selon le conseil de saint Jean-Baptiste, ayant deux habits, en donne l'un à celui qui est nu? S'en trouvera-t-il beaucoup qui reçoivent les afflictions que Dieu leur envoie avec action de grâce et adorant ses jugements, et baisent les verges paternelles avec l'humilité convenable aux enfants de Dieu? Qui est celui duquel la première pensée à son réveil soit de penser à Dieu et implorer son aide et demander la conduite de son esprit? Qui, à l'exemple de saint Pierre, pleure ses péchés au chant du coq? Ou qui s'endorme doucement en remettant ses soucis sur la providence de son Père? Qui ne pense jamais à la mort qu'avec joie et vit chaque jour comme prêt à mourir? Et par un doux divertissement tempère le travail et les amertumes de cette vie par un transport aux choses célestes et par une fréquente communication avec Dieu? Ô combien la vraie piété est-elle éloignée non seulement de nos actions, mais même de notre sentiment et notre imagination. Et quand on en vient à cette leçon tant amère et de dure digestion, à cette chair infirme, de renoncer à soi-même et de crucifier sa chair et de porter la croix après Jésus-Christ et de ravir le royaume de Dieu avec violence, combien d'empêchements et de regrets et de mutineries, de convoitises pour retourner en Égypte. Combien souvent, après de saintes pensées et de prières ardentes, se lèvent des tourbillons de mauvaises convoitises et se glisse en nos cœurs une langueur et un refroidissement au service de Dieu. Combien de fois, après être échappés de Sodome, regardons-nous en arrière, regrettant les choses que nous avons laissées. Cependant, quand en cet examen de nous-mêmes, nous avons apporté toute la diligence possible et sondé nos plaies jusqu'au vif, afin de savoir s'il y a en nous beaucoup de péchés que nous ne remarquons pas. Il faut dire avec David, psaume 19, « Délivre-moi des fautes cachées. » Et comme dit saint Jean en sa première épître, chapitre 3, « Si notre cœur nous condamne, Dieu certes est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Car il nous connaît beaucoup mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il nous arrive en ce dénombrement de nos péchés, ce qui advient à ceux qui, au soir, comptent les étoiles qui apparaissent les premières. Car pendant qu'ils les comptent, d'autres se découvrent, et après celles-là d'autres, et puis encore d'autres, tellement qu'ils brouillent leurs calculs, étant dépassés par la multitude. Par ses pensées et autres semblables, se formera au cœur du fidèle une grande douleur et affliction. Car il se représentera que Dieu le regarde continuellement et que rien ne lui est caché, et que souvent il a fait des choses devant Dieu qu'il eût été honteux de faire devant les hommes. Il se ressouviendra des grâces qu'il a reçues de Dieu, desquels il a abusé, et surtout de cette grâce par laquelle il a donné son Fils à la mort pour nous sauver, et de ce qu'en un temps obscur et plein d'ignorance, Dieu l'a appelé à sa connaissance. Il y ajoutera les témoignages particuliers de la faveur de Dieu qu'il a reçue au cours de sa vie, dont il dira en soi-même, en confessant ses péchés, est-ce là la reconnaissance que je fais à Dieu pour tant de bienfaits? Est-ce là la récompense de l'amour que Dieu m'a porté? Et cela, vivre dignement et conformément à la vocation dont Dieu m'a honoré. Car étant appelés pour être enfants de Dieu, nous vivons comme enfants de ce monde. De nos corps qui sont temples de Dieu, nous en faisons un repère de mauvaise convoitise, et comme des éponges qu'on emplit pour les vider, et qu'on vide pour les emplir. Par nos péchés, nous attristons l'Esprit de Dieu, nous tendons les anges qui nous sont apposés pour gardiens, spectateurs de nos ordures et mauvaises actions. Satan qui nous épie triomphe et se promet que nous serons à lui. Les faibles s'en scandalisent, les adversaires s'en endurcissent et prennent de là l'occasion de médire de notre religion, comme si elle comportait les mœurs et enseignait que les bonnes œuvres ne sont pas nécessaires. Par ce moyen, nous sommes cause que le bon nom de Dieu est blasphémé et sa vérité exposée en nom propre. Est-ce ainsi que nous glorifions Dieu? Est-ce là le bon exemple que nous donnons à nos prochains? Est-ce là le chemin du royaume des cieux? Toutes ces considérations rassemblées ensemble doivent percer d'une douleur cuisante le cœur de celui qui aime Dieu et former en lui une sérieuse repentance. Et au bout, il faudra confesser que toute cette douleur est légère au prix de la grandeur du mal et être affligé de n'être pas assez affligé et repentant de n'avoir pas assez de repentance. Cette douleur est bonne et salutaire. Et l'apôtre, en la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, dit que c'est une tristesse selon Dieu qui produit repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse de ce monde produit la mort. Tout comme le péché a introduit la douleur au monde, aussi Dieu a voulu que la douleur fît mourir le péché. Car cette sainte douleur produira une résolution de changer de vie par un vrai et sérieux progrès, et un désir ardent de conformer pour l'avenir sa vie à la volonté de Dieu, d'être juste et équitable en ses actions, véritable et honnête en ses paroles, chaste et sobre dans sa conversation, être soigneux auditeur de la parole de Dieu, assidu en prière, charitable et libéral en aumône, aimant ses ennemis en Dieu et ses ennemis à cause de Dieu, méprisant le monde, brûlant du sel de la maison de Dieu, vivant sur terre comme citoyen des cieux et comme voyageur et passant, sans s'attacher aux choses de ce monde, glorifiant Dieu par l'œuvre et par parole, et estimant tout temps être perdu qui n'est pas employé à s'avancer en la connaissance et crainte de Dieu. Tout comme connaître son péché sans en être affligé, c'est faire la guerre à Dieu et se plaire à lui déplaire. Ainsi, être affligé de son péché et ne s'en détourner pas, ainsi continuer en sa mauvaise vie est le chemin le plus court au désespoir et l'entrée des enfers. Telle a été la repentance de Judas, qui lui a fait dire avec une extrême angoisse « J'ai trahi le sang innocent » et l'a poussé à s'étrangler soi-même. Telle est la repentance d'Akab, jeûnant et se traînant, étant vêtu d'un sac, mais ne rendant pas la vigne aux héritiers de Naboth, et ne se détournant pas de son idolâtrie. Celui qui s'est ainsi éprouvé soi-même, passant une condamnation volontaire et détestant son péché, et qui là-dessus change de vie et tâche de profiter, et s'avancer en la crainte de Dieu, pourvu qu'il sente en soi quelque avancement en mieux, quoique parmi beaucoup d'infirmités, ne doit pas craindre de s'approcher de cette sainte table, car elle n'est pas préparée pour des justes et pour les pauvres pécheurs repentants. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais pour appeler les pécheurs à repentance. Après que la repentance a humilié le pécheur, la foi le relève. Et Jésus-Christ se présente à nous, lequel a fait avec Dieu la paix et réconciliation de ceux qui croient en lui. Examen de soi-même, si on a la foi. C'est là la deuxième partie de l'épreuve et examen de soi-même, à savoir de nous examiner nous-mêmes si nous avons la foi. Selon l'exhortation de saint Paul en ce passage, et en la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, « Examinez-vous vous-même si vous êtes en la foi. Éprouvez-vous vous-même. » En parlant ainsi, il présuppose que la foi est nécessaire au salut. Car comme dit l'apôtre aux Hébreux, chapitre 11, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et au quatrième chapitre, il dit que « la parole de Dieu n'a pas profité aux Israélites parce qu'elle n'était pas mêlée avec la foi. » C'est ce que le Seigneur dit au huitième chapitre de saint Jean, « Si vous ne croyez, vous mourrez en vos péchés. » Et au troisième chapitre, « Celui qui ne croit pas est déjà condamné. » Et non seulement c'est là le langage du Nouveau Testament, mais aussi du Vieil. Au psaume 78, David dit que la colère de l'Éternel monta contre Israël, parce qu'il n'avait pas cru à Dieu et ne s'était pas assuré de sa délivrance. Sur quoi on demande, vu que Dieu veut que nous fassions du bien, non seulement à ceux qui se méfient de nous, mais même à ceux qui nous haïssent? Pourquoi Dieu ne sauve-t-il ceux qui n'ont pas confiance en sa promesse? Veut-il que nous soyons plus charitables et miséricordieux que lui? À quoi nous répondrons que Dieu distribue vraiment des bénédictions temporelles aux incrédules? Mais quant au bien céleste et éternel, il a jugé en son conseil qu'il n'est pas juste de les donner à ceux qui les rejettent par incrédulité. Car Jésus-Christ étant venu des cieux, ayant souffert tant de douleurs pour nous acquérir le salut, serait-il raisonnable de donner ce salut à ceux qui renvoient Jésus-Christ par mépris et ne croient pas à sa parole? Celui qui rejette la médecine par laquelle seul il peut être guéri mérite de mourir, puisqu'il rejette les moyens qui seuls peuvent lui conserver la vie. Et certes, comme ma mort est entrée au monde pour avoir ajouté foi à la parole du diable, aussi est-il convenable que la vie y entre par la foi en la parole de Dieu. Et comme il est besoin qu'il y ait une vertu qui nous humilie, à savoir la repentance, aussi en faut-il une qui nous relève en une sainte confiance. Et comme ainsi, soit que les biens célestes sont hors la portée de nos sens et éloignés de notre appréhension, il est besoin d'une vertu qui soit une subsistance des choses qu'on espère, et une démonstration des choses qui n'apparaissent pas. Hébreux 11. Et pour nous arrêter à la participation de la Sainte Cène, puisque Jésus-Christ s'y présente à nous avec ses grâces célestes, il faut une main pour les recevoir. À cela ne peut servir la main du corps, mais la foi est celle par laquelle nous recevons Jésus-Christ et les grâces pour nous les appliquer. Car venir à la table du Seigneur sans la foi, c'est comme qui irait à la fontaine sans vase pour puiser, afin d'en remporter autant qu'on a apporté, et retourner non seulement vide et sans profit, mais aussi coupable d'avoir pris indignement ce sacrement, et avec ce sacrement, sa condamnation. La foi donc étant nécessaire pour tant de causes, c'est à nous de nous éprouver nous-mêmes là-dessus, pour reconnaître si nous avons la foi, et pour ainsi dire, de tâter le pouls de nos consciences, pour reconnaître s'il est tranquille et réglé, et si elle se repose en Jésus-Christ et en sa mort. Peut-être que vous penserez que cet examen est aisé à faire, car direz-vous, qui est-ce qui ne sait s'il croit en Jésus-Christ? Mais cet examen n'est pas sans difficulté, et plusieurs s'y sont trompés et ne se sont pas examinés comme il faut. Car comme il y a une fausse repentance qui ne consiste qu'en mine extérieure, ou qui procède de dépit ou de désespoir ou d'appréhension d'être puni. Aussi, il y a une fausse foi et de plusieurs sortes. C'est une fausse foi que celle qui n'est qu'en profession extérieure et en parole, et non pas en effet. D'autre aussi, l'apôtre dit que la fin du commandement est charité, qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience, et d'une foi non feinte, présupposant qu'il y a une foi simulée et hypocrite, qui se fait de bouche, pendant que le cœur est plein d'incrédulité. De même, il y a une fausse foi, laquelle est un endormissement profane, une léthargie et sécurité charnelle, par laquelle un homme se persuade que Dieu lui fera miséricorde pendant qu'il sert son ventre ou son argent, et s'endort là-dessus en une vaine confiance, corrompant la grâce de Dieu en se corrompant soi-même. Mais quand les douleurs viennent, et les angoisses, et les accessoires de la mort, cette foi se fond et manque au besoin, comme une cuirasse qui n'est pas à l'épreuve, ou comme une épée de mauvaise trempe qui vole en pièces en un jour de combat. C'est aussi une fausse foi par laquelle un homme se fie en ses propres mérites. De même, celle qu'on appelle foi implicite ou enveloppée, qui se repose sur la foi d'autrui, qui croit ce que son Église croit, sans savoir ce que l'Église doit croire, qui est une foi qui consiste en ignorance sous ombre de docilité. L'examen de cette foi est aisé à faire, car un ignorant reconnaît aisément qu'il n'y connaît rien. Un aveugle sent et reconnaît assez qu'il ne voit pas. C'est aussi une fausse foi, laquelle en l'Église romaine on définit ainsi, à savoir que c'est une ferme persuasion que tout ce qui est en la parole de Dieu est véritable. Les diables croient aussi cela, et savent bien que Dieu n'est pas menteur. La vraie foi est celle par laquelle non seulement nous croyons que les promesses de Dieu sont véritables, mais aussi que ces promesses nous appartiennent, par laquelle chaque fidèle croit que Dieu est réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Disons avec l'apôtre, cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Mes miséricordes m'a été faite. Et le Fils de Dieu m'a aimé et s'est donné soi-même pour moi. Ce « pour moi » est le langage de la foi, laquelle s'applique en particulier les promesses proposées généralement en l'Évangile. C'est le témoignage intérieur que l'esprit d'adoption tend à nos esprits, témoignant à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, comme l'enseigne l'apôtre aux Romains chapitre 8. Duquel témoignage secret de l'Esprit de Dieu nos adversaires se moquent parce qu'ils ne le sentent pas, jugeant de la conscience d'autrui par le mauvais état de la leur et du sentiment que Dieu donne à ses enfants par leur insensibilité. Y ayant donc tant de sortes de fausses fois, c'est à nous de reconnaître la nature de la vraie foi et ses propriétés, afin qu'en cet examen par lequel nous nous éprouvons nous-mêmes, nous ne soyons pas trompés. En premier lieu, le propre de la vraie foi est de donner paix à l'âme et apporter tranquillité à la conscience. Car étant justifiés par la foi, nous avons paix envers Dieu. Romains 5. L'Esprit de Dieu scelle en nos cœurs ses promesses, donnant une joie et paix de conscience par l'assurance que Dieu nous aime et qu'il est réconcilié à nous par Jésus-Christ. La foi dit au cœur du fidèle, « Jésus-Christ est mort pour toi ». Et quiconque croit en lui aura rémission des péchés par son nom. Acte 10. Les promesses de Dieu sont fermes et véritables. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Dieu souffrirait-il que la mort de son Fils fût sans efficace envers ceux qui croient en lui? Craindrais-je que Dieu ne haïsse mes péchés plus qu'il n'aime la justice et l'obéissance de son Fils bien-aimé ? Sur cette pensée, il remettra tous ses péchés sur Jésus-Christ et tous ses soucis sur l'amour que Dieu nous a porté en Jésus-Christ. Il ne craindra pas les hommes, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8. Il ne craindra pas le diable, car Jésus-Christ, par sa mort, a détruit celui qui avait l'empire de la mort, à savoir le diable. Hébreux 2. Il ne craindra pas la pauvreté et les incommodités de la vie, car il dira « Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas les autres choses avec lui ?» Romains 8. Il ne craindra pas la mort, parce qu'il voit Jésus-Christ passer devant lui et en passant par la mort avoir ôté la malédiction de notre mort en la supportant. Si Dieu visite les afflictions, il est persuadé que Dieu l'exerce ainsi pour son bien et salut, car toute chose coopère en bien à ceux qui aiment Dieu. Romains 8. Cette confiance se fortifiera au cœur du fidèle par l'expérience du soin que Dieu a de lui et par la bonté de Dieu dont il a senti les effets, l'appelant d'une sainte vocation et l'illuminant de la connaissance et l'ayant délivré de plusieurs difficultés et périls en sa vie. Par cette foi, le fidèle a accès au trône de la grâce de Dieu, car il ne considère plus avec frayeur le siège judicial de Dieu, parce que celui qui est assis sur ce trône est notre Père, et que devant ce trône comparaît Jésus-Christ, qui est notre avocat envers Dieu. Fondé sur cette assistance, il demeurera debout, non seulement parmi les ruines de son pays, mais aussi parmi la ruine et l'embrasement du monde. Car le jugement de Dieu n'atteigne pas ceux qu'il a donnés à son Fils Jésus-Christ. Nul ne les arrachera de sa main. Jean 10. Or, par ceci, vous reconnaîtrez que cette confiance n'est pas vaine si elle vient après les doutes et les troubles de conscience, car on ne vient pas à cette paix et tranquillité de l'âme qu'après des combats et agitations intérieures. Il faut avoir senti la pesanteur de ses péchés. Il faut avoir gémi et soupiré et versé des prières ardentes au sein de son Père pour obtenir la paix et l'assurance de la rémission des péchés. Il en est comme des médecines qui n'apportent pas de soulagement aux malades qu'après des tranchées et un dégoût et un renversement d'estomac. Par là aussi, vous discernerez que cette paix de conscience n'est pas un endormissement profane, ni une sécurité charnelle, si elle vous a soutenu en affliction. Et si le fidèle peut dire « J'ai supporté des angoisses terribles et Dieu m'a fait passer par de dures épreuves, lesquelles m'eussent accablé et précipité en désespoir, si la promesse de mon Dieu ne m'avait soutenu, et si Dieu ne m'avait fait sentir ses consolations par les suggestions secrètes de son esprit. Car si quelqu'un a toute chose à souhait et ne sait ce qu'est d'affliction, et cependant se vante se fier en Dieu et avoir une ferme foi, je craindrai que cette foi ne lui manque au besoin et que dans de subites angoisses il ne se trouve tout étonné. David, au même psaume 30, confesse cela lui est advenu, disant « Quand j'étais en ma prospérité, je disais « Je ne serai jamais ébranlé. Mais sitôt que tu as caché ta face, je suis devenu tout trouble. » Par ceci aussi reconnaîtrez-vous que vous avez la vraie foi, si elle plante en vous, vos cœurs, l'amour de Dieu, tellement que vous ne pensiez jamais à Dieu qu'avec une secrète joie, et que vous ne sentiez les affections filiales s'émouvoir en vous. Vous ne regardiez jamais le ciel que vous ne disiez en vous-même, « Voilà la maison de mon Père, et le lieu où je suis attendu. » Vous regardiez l'Écriture sainte comme le contrat de votre mariage spirituel et comme le testament de votre frère aîné, en vertu duquel vous êtes fait héritier du royaume des cieux. Ce sera aussi une bonne marque pour reconnaître si vous avez la vraie foi, à savoir si à chaque fois que vous entendez des paroles ou voyez des actions que tournent au déshonneur de Dieu et où il est offensé, vous vous sentez piqué de colère et du zèle de la maison de Dieu. Si vous jouissez des bénédictions temporelles comme les recevant de la main de Dieu, en même façon qu'un enfant reçoit le pain de la main de son père, tellement que, considérant votre maison, vos meubles, vos habits, votre nourriture, votre état et condition, en toutes ces choses, vous reconnaissez la bonté de Dieu et prenez occasion de le glorifier. De même, si vous êtes contrarié en ce séjour temporel, non pas à cause des maux et incommodités que vous y souffrez, mais à cause que vous êtes sujet à pécher et avez à combattre contre votre infirmité naturelle et contre la corruption du siècle auquel la piété est un crime. Et la vérité divine est appelée hérésie, et le saint nom de Dieu est vilipendé. Vous désirez avec saint Paul d'être dissous afin d'être avec Jésus-Christ et être délivré de combats continuels contre vos vices et contre ceux d'autrui. Ceci aussi sera une des marques de la vraie foi, qu'elle est opérante par charité. Galates 5. La foi forme les croyants à paix et concorde avec leur prochain, comme il est dit au 4e chapitre des Actes, que les croyants étaient un cœur et une âme. Car celui qui croit en Jésus-Christ l'aime, et par conséquent aime ceux que Dieu Jésus-Christ a aimés, et pour lesquels il est mort. La foi qui nous lie avec Jésus-Christ nous joint aussi avec ses membres et nous incite à aimer Jésus-Christ, lequel nous a aimés plus que sa vie. Bref, la foi étant la mère des bonnes œuvres, par là reconnaîtrez-vous que vous avez la vraie foi, si elle est fertile en bonnes œuvres, et si elle purifie vos cœurs d'affections charnelles et mondaines, comme dit saint Pierre au 15e chapitre des Actes, que Dieu a purifié les cœurs des gentils par foi. Par ces marques, vous reconnaîtrez que vous avez la vraie foi et par conséquent que vous êtes des enfants de Dieu. Car pour être assuré de son salut, il n'est pas besoin de fouiller les secrets de la prédestination ni de feuilleter le livre de vie. Il y a d'autres livres dans lesquels nous pouvons trouver cette assurance. Il y a le livre de l'Évangile qui dit que quiconque croit en Jésus-Christ ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Il y a aussi le livre de la conscience, par lequel le fidèle sent en soi-même qu'il croit en Jésus-Christ et ne met pas sa confiance en aucun autre, dont le fidèle tire cette conclusion. Donc je ne périrai pas, mais j'aurai la vie éternelle. Zacharie 12. Et l'esprit d'adoption, qui est l'esprit des supplications, tire de nos cœurs des soupirs inexplicables et nous incite à parler avec Dieu avec une liberté filiale. Car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3. Je ne doute pas, mes frères, que la plupart de vous, voire les meilleurs, qui par ces marques examineront leur repentance et leur foi, ne sortent ces examens assez mal satisfaits d'eux-mêmes, reconnaissant en eux-mêmes quelque chose de ces marques, mais mêlés avec beaucoup de faiblesse et d'imperfection. Mais pour cela, ils ne doivent perdre courage. Une foi infirme n'empêche pas d'être sauvée, pourvu qu'elle soit vraie et sans hypocrisie. En clochant, comme jadis Jacob, nous allons en Bethel, c'est-à-dire en la maison de Dieu, car nous ne sommes pas sauvés par la perfection de notre foi, mais par la vérité de la promesse de Dieu et par la fermeté de son alliance. Des mains faibles ne manqueront pas de recevoir cette aumône et appréhender la grâce de Dieu. Les borgnes et ceux qui étaient malades des yeux étaient aussi bien guéris par le regard du serpent d'airain, figure de Jésus-Christ, que les plus clairvoyants. Seulement, examinez de vos consciences si vous êtes affligés de cette infirmité de foi, et si vous tâchez à la fortifier par prière et par méditation et l'écoute de la parole de Dieu, et par l'exercice de bonnes œuvres, sachant, suivant le conseil de saint Pierre, 1 Pierre 1, de rendre vocation et élection assurées par bonnes œuvres. La foi est vraiment la mère des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres, comme filles bien reconnaissantes, nourrissent leur mère et la soutiennent, semblable à cette fille qui allaitait son père en prison. Car à mesure que nous sentons l'amour de Dieu croître en nos cœurs, croît aussi l'assurance que Dieu nous aime. 1 Jean 4. C'est un signe certain que Dieu nous aime quand il plante et augmente en nos cœurs son amour. Nous aimons Dieu d'autant que lui le premier nous a aimés. C'est signe que Dieu nous veut sauver quand il nous fait la grâce de nous faire avancer, quoique lentement, au chemin de salut. Avec cette disposition et après cette épreuve de soi-même, vous participerez à ce saint sacrement à salut et apportant une sérieuse repentance de vos péchés et un désir ardent de la grâce de Dieu. Recevant avec confiance la grâce qui vous est offerte en Jésus-Christ, pour en remporter une paix de conscience et une joie spirituelle qui vous soutiennent contre la crainte de la mort et contre les assauts du monde et du diable. Tant que finalement, ces voiles ôtées, vous participiez à découvrir à Jésus-Christ au royaume des cieux et soyez conjoints avec lui éternellement. Auquel avec le Père et le Saint-Esprit soit gloire et louange au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Méditation préparatoire à la Sainte Cène du Seigneur. Comme le cerf altéré brame après les eaux courantes, ainsi mon âme aspire à toi, ô mon Dieu. Mon Père et mon Rédempteur. Mon âme a soif de l'Éternel, elle dit en soi-même, « Oh, quand je me présenterai devant la face de mon Dieu !» Seigneur, tu nous viens au-devant, tu nous convies au festin de l'agneau, tu nous veux rassasier de tes biens et nourrir nos âmes en l'espérance de la vie éternelle. Mais hélas, comment oserais-je approcher de Dieu qui est un feu consumant et un juste juge auquel rien n'est caché et qui met tous nos péchés en la clarté de sa face? Moi qui suis une pauvre créature infirme, chargée de péchés et qui ne suis que poussière et cendre en sa présence. Si j'entre en l'examen de ma conscience, je suis confus en moi-même et troublé par la multitude de mes péchés. Car laissons à part les actions entièrement mauvaises, tant de vanité, d'orgueil et d'amour de ce monde, tant de méfiance et de sollicitude terrestre, tant de vaines pensées et de mauvais désirs dont la mémoire m'effraie et me fait continuellement mon procès. Je trouve en mes meilleures actions tant de défauts et d'imperfections que j'ai besoin de demander à Dieu qu'il n'examine pas mes justices et qui pardonne à mes meilleures œuvres. Car en mes prières, mon esprit s'égare. En écoutant sa parole, mon attention est divertie par mille vaines pensées, tellement que souvent il vaudrait mieux être absent que d'être ainsi présent, et être en un autre lieu qu'en son temple que de n'y être qu'à demi. Si je me retire à part pour méditer ses œuvres et sa parole, ces saintes pensées sont souvent interrompues par des pensées terrestres, et la convoitise est comme un poids attaché à mon âme, qui lui rompt son vol quand elle veut s'élever à Dieu. En donnant l'aumône, je sens cette chair perverse qui me dit « Tu pourrais bien un jour en manquer, et ces pauvres sont indignes d'assistance, et il y en a de plus riches que toi qui peuvent leur venir en aide. » Je suis plus sensible aux injures qu'on fait à ma personne qu'à l'opprobre qu'on fait à la cause de Dieu. J'endure plus impatiemment mes afflictions personnelles que l'affliction de l'Église. Mon esprit se travaille sur les événements futurs et sur la crainte des maux qui nous menacent, comme si j'étais en peine pour Dieu et étais en doute de sa sage conduite. Ma foi en la promesse de Dieu est assaillie de doute et mêlée de méfiance. Voilà déjà tant d'années qui se sont écoulées avec peu d'avancement et le temps s'échappe et se dissipe que Dieu m'a octroyé pour faire provision de bonnes œuvres et amasser un trésor au ciel. Bref, voulant faire un dénombrement de mes péchés, je me perds en cette pensée, parce que je n'en trouve pas le bout. Il faut que je m'écrie avec David, « Seigneur, délivre-moi de mes fautes cachées. » Psaume 19. Ayant mal géré les biens que j'avais reçus de mon père, je dis avec l'enfant prodigue, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Car Dieu, auquel nous avons à rendre compte, même d'une parole oisive, et à plus forte raison des mauvaises actions, connaît toutes choses. Il sonde les cœurs et examine les pensées. Nos ténèbres lui sont lumière, comme au contraire sa lumière nous est ténèbre. D'autant qu'il a été généreux envers nous, sommes-nous coupables envers lui d'une extrême ingratitude. Tant plus qu'il nous a honorés d'une sainte vocation, en plus, sommes-nous coupables pour avoir en mal vivant déshonoré une dignité si excellente et attiré du déshonneur sur la profession de l'Évangile? Ô chers rebelles, ô nature perverse et incapable de goûter les choses d'en haut et de s'assujettir à la volonté de Dieu, est-ce ainsi que je glorifie Dieu en ma vie? Est-ce ainsi que j'en suis les traces de mon Sauveur Jésus? Est-ce ainsi que j'édifie mes prochains? Est-ce là le chemin pour parvenir au salut éternel? C'est pourquoi, humilié devant mon Dieu et confus en moi-même, je dis avec Daniel, « À toi, Seigneur, est la justice, mais à moi, confusion de face. » Et je n'oserais lever les yeux au ciel, moins encore me présenter à la table du Seigneur, n'était que Dieu appelle à soi les pauvres pécheurs, travaillés et chargés du sentiment de leurs péchés. Et que je sais que Jésus-Christ n'est pas venu au monde pour les justes, mais pour appeler les pécheurs à repentance. Et qu'à cette table sont conviés les infirmes et les plus grands pécheurs, pourvu que se convertissant à Dieu de tout leur cœur, ils cherchent leur vie et salut en Jésus-Christ. C'est ce festin dont il est parlé au 14e chapitre de saint Luc, auxquels sont invités les boiteux et les manchots. Tellement qu'encore en clochant, je me traîne vers Jésus-Christ, mon Sauveur. Il ne manquera pas de me recevoir, par grâce, et me faire participant des biens qu'il nous présente en cette table. Tant s'en faut donc que ces péchés m'empêchent de m'approcher, qu'au contraire, ce sont eux qui me pressent de venir à cette table, et m'incite à aller à Jésus-Christ pour décharger sur lui mes péchés et trouver en lui du soulagement à ma conscience oppressée. Je ne dis pas comme saint Pierre disait à Jésus-Christ, « Retire-toi de moi, car je suis homme pécheur. » Mais je dis plutôt, « Approche-toi de moi, Seigneur, et viens à mon secours, car je suis pauvre pécheur, car il a porté nos langueurs, il a charge et nos douleurs. L'amende qui nous apporte la paix est sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons guérison. » C'est lui qui dit de soi-même au psaume 69, « J'ai rendu ce que je n'avais pas pris. » Et tout ainsi que les personnes angoissées et chargées de dettes se retiraient à David au désert, ainsi les âmes angoissées et pressées du sentiment de leur péché se retirent vers Jésus-Christ pour trouver du repos. Couvert de sa justice, je comparaîtrai avec assurance devant le siège judiciaire de Dieu, car je produirai en jugement cette quittance, signée du sang de Jésus-Christ, par laquelle Dieu nous déclare quitte et nous assure que nos péchés nous sont pardonner. À Dieu, dont les richesses sont infinies et la bonté incompréhensible, il est aussi aisé de remettre les grandes dettes que les petites, et pardonner les pécheurs qui se repentant les grands péchés que les petits. Semblable à ce créancier qui quitta également à l'un 500 deniers et à l'autre 50, parce qu'il tire ses grâces d'un trésor sans fond et qui ne peut être épuisé par libéralité. Si la miséricorde de Dieu s'élève par-dessus le jugement, comme dit saint Jacques, combien plus s'élèvera-t-elle par-dessus mes péchés? Si, comme dit saint Pierre, la charité de l'homme couvre multitude de péchés, la bonté de Dieu, qui est la charité même, n'en couvrira-t-elle pas beaucoup davantage? Voire j'ose dire que, de la grandeur de nos péchés, Dieu prend occasion de déployer la grandeur de sa miséricorde. Car comment reconnaître-t-on que Dieu est infiniment miséricordieux s'il n'y avait de très grands pécheurs envers lesquels il déploie sa clémence et souveraine bonté? Si ma conscience m'accuse, la promesse de mon Dieu me console, qui promet à toute heure que le pécheur se convertira. Ses iniquités ne lui seront pas rappelées. Ézéchiel 18. Et comme dit saint Jean, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et le sang de Jésus-Christ nous nettoie de tout péché. Qui croit en Jésus-Christ, dit saint Pierre, trouvera rémission de ses péchés par son nom. Pourquoi douterais-je de la vérité de Dieu? Celui qui a reçu le témoignage du Fils a scellé que Dieu est véritable. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Le Seigneur Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés », ne nous appelle pas pour nous renvoyer sans soulagement. Il ne nous dit pas « Demandez » afin de nous renvoyer vide. Aussi, sais-je bien qu'il n'est pas de Dieu comme des rois de ce monde, devant lesquels ceux qui se présentent prennent leurs meilleurs habits, mais devant Dieu, j'étalerai plutôt les vieux lambeaux de mes infirmités et lui ferai humble confession de mon péché. Je m'abaisserai pour puiser en cette source. Abattu par la repentance et relevé par la foi, j'embrasse la croix de Jésus-Christ, mon Sauveur, en la mort duquel Dieu déploie envers nous les souverains témoignages de son amour. Ayant livré son propre Fils à une mort ignominieuse, afin que d'ennemis que nous étions, il nous fît ses enfants et d'esclaves de Satan, héritiers de son royaume. Ce sont les abîmes de la grâce de Dieu dans lesquels il y a plaisir de se perdre. Car comme d'une part ils engloutissent nos esprits par la profondeur inscrutable, aussi d'autre part ils restaurent les consciences par une singulière consolation. Puisqu'accès nous est donné au trône de la grâce de Dieu, par le sang de l'Alliance qui prononce chose meilleure que le sang d'Abel. Et que désormais, par l'intervention de Jésus-Christ, je puis présenter à Dieu mes prières et avec une liberté filiale verser en son sein mes soupirs et imiter le langage de Dieu à Abraham. Maintenant, je connais que tu m'aimes, puisque tu n'as pas épargné ton Fils, ton unique, pour l'amour de moi. Que si Jésus-Christ a prié en croix pour ceux qui le crucifiaient, n'intercéderait-il pas pour moi qui recours à lui par son commandement? Si Dieu s'est fait trouver à ceux qui ne le cherchaient pas, se détournerait-il de ceux qui le cherchent par le chemin que lui-même a ordonné? Cela même qu'il m'a donné une sérieuse repentance de mes péchés, j'ai un témoignage certain qu'il m'a pardonné. Car quand nous nous convertissons à lui, c'est parce qu'il s'est converti à nous et nous a fait la grâce de nous convertir. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés auparavant. Bienheureux est celui lequel Dieu a aimé, et en l'aimant, a planté en son cœur son amour et sa crainte. Et qui, aimant Dieu, a en cet amour une certaine preuve, que Dieu l'a aimé et lui a pardonné son péché. De cette même source procède la foi en la promesse de Dieu, laquelle Dieu même a mise en mon cœur. Car comme dit l'apôtre, la foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Vu que de notre nature nous sommes enclins à incrédulité et méfiance. Mais Dieu donne à ses élus l'esprit d'adoption qui est l'art de notre héritage et qui, avec une douce efficacité, nous tire devant le trône de la grâce de Dieu pour trouver grâce et miséricorde en temps opportun. Par cela aussi, je reconnais que Dieu m'a pardonné, parce qu'il me fait la grâce de pardonner volontiers à ceux qui m'ont offensé, et de bannir de mon cœur toute envie de rancune contre mon prochain, et de procurer la paix de ceux qui me haïssent, desquels il plaît à Dieu de se servir pour m'éprouver. Car Jésus-Christ nous a promis que si nous pardonnons aux hommes, Dieu aussi nous pardonnera. Que si ma foi est faible, elle est néanmoins vraie et sans tromperie. Et cette foi est l'œuvre de Dieu en moi, qu'il n'abandonnera pas. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Tu ne brises pas le roseau cassé. Tu n'éteins pas le lumignon fumant. Ta grâce et ta vertu s'accomplissent à notre infirmité. Maintenant donc, ô mon Dieu, élève à toi ma pensée. Augmente-moi la foi. Échauffe mon cœur au feu de ton amour. Purifie mon âme par l'esprit de sanctification. Donne-moi de recevoir aujourd'hui avec pleine confiance les gages de ton amour et les sceaux de ton alliance que tu as contractés avec nous par l'intervention de ton Fils Jésus-Christ, et de les recevoir non pas comme de la main d'un homme pécheur et mortel, mais de la main de Jésus-Christ même, parlant secrètement en mon cœur et me disant, comme au paralytique, « Mon Fils, aie bon courage, tes péchés te sont pardonnés. » Seigneur, par ces signes que tu veux que nous recevions de la bouche du corps, tu nous enseignes que tu veux habiter en nos cœurs, en attendant que nous habitions avec toi en ton royaume. Ô toi, souverain sacrificateur, qui allume les lampes de ce temple et les remplit d'huile de la connaissance de Dieu, veuille te servir de ces signes extérieurs pour allumer en mon cœur un zèle ardent et le remplir du sentiment de ton amour. Que Jésus-Christ, qui est mort pour moi, vive toujours en moi, et ce corps mortel me donne un commencement de vie éternelle, car lorsque je connaîtrai que la mort de Jésus-Christ, mon Sauveur, est efficace pour moi, quand elle sera efficace en moi, et quand à l'imitation de sa mort je mourrai au péché, crucifiant ce vieil homme et mortifiant mes convoitises, afin que par une nouvelle vie je sois fait conforme à sa résurrection. Que l'amour que Jésus-Christ m'a montré en mourant pour moi m'oblige à l'aimer et à ne vivre désormais pour l'amour de lui. Que l'exemple de son obéissance, par laquelle il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, me forme à te rendre obéissance, ô mon Dieu, et consacrer le reste de mes jours à ton service. Que l'exemple de son extrême humiliation serve à rabattre mon orgueil. Qu'ayant aimé ses ennemis jusqu'à mourir pour eux, je sois par là incité à pardonner à ceux qui m'ont offensé et à vivre en paix et concorde avec mes prochains. Que la bonne confession qu'il a faite devant Ponce Pilate, déclarant que son royaume n'est pas de ce monde, m'oblige à mépriser ce monde, afin d'appartenir à son royaume et vivre comme passant et voyageur sur la terre. Bref, donne-moi, mon Dieu, d'approcher de cette sainte table avec une humble repentance et d'y apporter une faim spirituelle et un désir ardent de ta grâce et d'y participer avec une ferme confiance en tes promesses et d'en remporter la paix et la joie qui est propre à tes enfants. Ô mon Dieu, exauce ma prière selon ta promesse par laquelle tu nous as promis de nous donner ce que nous te demandons. Au nom de ton Fils bien-aimé. Ô heureux changement! Moi, pauvre pécheur qui tremblais et n'osais approcher, et qui avait la conscience troublée de l'horreur de mes péchés, Maintenant, j'accours à mon Dieu avec confiance. Mon Dieu, tu es mon Père, tu es ma seule espérance et consolation. Tu m'as tiré du gouffre de perdition éternelle. Tu as illuminé mes yeux et réjoui mon cœur. Tu m'as ouvert le chemin de salut par ta parole en un siècle ténébreux et corrompu et m'as délivré des filets du monde et du diable. Il m'a fait sentir en toute ma vie ton secours paternel. Tes dons et ta vocation sont sans repentance. Tu n'abandonnes pas ton œuvre. Tu donnes parce que tu as donné et couronnes tes premières grâces de nouveaux bienfaits, car tu le fais pour l'amour de toi-même. Pourtant, je veux désormais me réjouir en ton salut, fondé non sur mes forces, mais sur ton secours et sur ta promesse, et sur les expériences du passé. Je ne craindrai pas toute la puissance de Satan. Et en combattant le bon combat, et m'avançant en la foi, et en toute bonne œuvre, j'attendrai la mort avec assurance, voire jusqu'à aller au-devant si besoin est, pour la défense de ta cause. Car mon désir est d'être dissous pour être avec Christ. Je suis ennuyé d'être absent de mon Dieu, et je suis las de vivre parmi la contradiction de ce siècle pervers, où ta vérité est opprimée et ton nom blasphémé. Je suis las d'avoir à combattre contre mes convoitises et de porter ce fardeau de cette chair perverse. Mon Dieu, mon Père, tends-moi la main d'en haut, que je voie ta face, que je sois avec Jésus-Christ mon Sauveur, lequel m'est gain à vivre et à mourir. Donne-moi en mon cœur un goût de la joie dont tes saints se réjouissent en toi, et quelques étincelles de cette lumière dont tu éclaires tes enfants en ton royaume, afin que mes pensées et mes désirs soient transportés vers toi, Seigneur. Je crois, je me repose en toi. Tu ne m'abandonneras pas. Tu es ma joie, mon espoir et ma consolation. Prière en approchant de la table. Qui suis-je, ô grand Dieu, que j'ose m'approcher de ta table pour être reçu au nombre de tes enfants, moi qui ne suis que poussière et une créature infirme et pécheresse, qui t'es tant et tant offensé. Mais puisque par ta bonté paternelle, tu nous convies pour recevoir aujourd'hui les témoignages sacrés de notre paix et réconciliation avec toi, et que ton Fils Jésus, qui est mort pour moi, appelle à soi ceux qui sont travaillés et chargés. Tu ne rejetteras pas ton serviteur qui implore ta grâce et cherche en la mort de Jésus-Christ le salut et la vie. Maintenant donc, élève mon cœur à toi. Donne-moi ton Saint-Esprit. Fais-moi la grâce d'approcher de cette sainte table avec une humble repentance et avec une âme altérée et désireuse de ta grâce. Fortifie ma foi et viens au secours de mon infirmité, afin que, recevant de la main ces signes visibles, je reçoive par foi le corps de Jésus-Christ rompu et son sang répandu pour moi en nourriture de vie éternelle. Que j'en remporte une paix de conscience et la joie spirituelle que tu donnes à tes enfants par ton esprit qui est le vrai consolateur. Que par tant de bienfaits que tu dispenses à ton serviteur, je sois incité à t'aimer et à te craindre et à dépendre entièrement de ta sainte conduite jusqu'à ce que tu recueilles mon âme en paix pour voir ta face et jouir des biens que tu nous proposes en cette table. Prière et action de grâce après la communion. Seigneur mon Dieu, mon Père, tu as consolé mon âme, tu l'as comblée de tes biens, tu as réjoui mon cœur par les témoignages de ton amour. Ô combien douces sont tes consolations! Combien sont excellents les effets de ta bonté envers ceux qui te craignent. Hélas, qui suis-je, moi, pauvre créature infirme et pécheresse, que tu daignes me recevoir à ta table et me déployer tes grâces célestes. En quoi suis-je meilleur que tant de personnes auxquelles tu ne fais pas cette grâce? Seigneur, ce n'est pas pour aucune vertu qui soit en moi. Mais tu veux être glorifié en faisant du bien aux plus indignes et m'as voulu rendre exemple de ta faveur. Tant aussi je te louerai, mon Dieu, et te glorifierai en toute ma vie et estimerai désormais toute autre chose n'être que vanité et amertume au prix de l'excellence de ta grâce et de la douceur de ton amour. Fais-moi la grâce, ô mon Dieu, car tu ne nous dispenses pas seulement des biens, mais aussi nous fais la grâce d'en bien user. Quelque grande que soient tes grâces envers ton serviteur, elles me seraient inutiles et je ne pourrais en user sans l'assistance continuelle de ton Saint-Esprit. Fais donc que la grâce que tu m'as faite aujourd'hui demeure perpétuellement imprimée en ma mémoire, afin d'allumer en mon cœur ton amour et me fortifier en la foi par laquelle je me repose en tes promesses et me réjouisse en ta bonté. Que la mort de ton Fils Jésus-Christ serve à mortifier mes convoitises charnelles, afin que par une nouveauté de vie, je sois rendu conforme à sa résurrection. Que son ascension au ciel serve à élever mon cœur au ciel, où il est monté pour nous préparer lieu, en sorte que ma conversation soit comme d'un citoyen des cieux. Étant en ton Église exemple de bonne vie, de charité, d'humilité, de patience, de droiture et justice en mes actions, de ferme confiance en toi, de mépris de ce monde et du zèle de ta maison. Remplis mon cœur de joie spirituelle, qui soit victorieux sur les chagrins mondains et serve à digérer les amertumes de cette vie misérable. Donne-moi ta paix, laquelle le monde ne connaît pas et ne peut nous ôter. Mon Dieu, mon Sauveur et Rédempteur, je me fie en ta parole, je me réjouis en ton amour. Quand je passerai par la vallée d'ombre de mort, je ne craindrai pas, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette sont ceux qui me consolent. Je sais que ni mort, ni vie, ni toute la puissance du monde ne me sépareront pas de l'amour de Dieu qui nous a montré en son Fils Jésus-Christ. Toute chose coopère en bien à ceux qui aiment Dieu. Les maux leur sont remèdes. La mort qui est effroyable par nature est celle qui m'approchera de mon Dieu. Sous cette face hideuse, le Sauveur Jésus vient à nous et nous apporte un présent de vie éternelle. Mon Dieu me sauvera et m'ayant délivré de toute mauvaise œuvre, me recevra en son royaume céleste. Là, je verrai l'accomplissement des choses qui nous ont été représentées en la table du Seigneur. Là, je puiserai en la source de vie. Là, je verrai mon Dieu et serai transformé en sa ressemblance et rassasié de sa présence.